Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Mythique.fr, pour faire des rencontres, on ne fera jamais mieux. Mythique.fr, rencontre sur Internet.
Elle clique et quelques secondes plus tard, un beau garçon s'écrase au milieu de son salon après avoir défoncé le plafond. Mais bon, elle sourit quand même.
Aimer pour de vrai, vibrer pour de vrai. Téléchargez Mythique.
Des couples d'âge différents, d'origines différentes et à la fin, deux jeunes femmes qui s'embrassent dans la mer. Entre ces deux pubs, presque 20 ans se sont écoulés, illustration des changements du marché de la rencontre sur Internet. Il s'est massifié et s'est ouvert à toutes les formes de sexualité. Mais une chose n'a pas changé en 20 ans, surtout après deux années de Covid, le besoin de se rencontrer et de s'aimer. Un besoin animé par le champion du dating, la rencontre Match Group. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos. Et aujourd'hui, on va partir avec Anaïs Moutot à la rencontre de la grande prêtresse des rencontres amoureuses, celle que l'on surnomme la marieuse de la planète, Chardou Bey, c'est la patronne de Match Group. C'est un mariage qui dure, un mariage heureux entre le français mythique, créé en 2001 par l'entrepreneur Marc Simoncini et l'américain Match.com. Il y a un peu plus de 10 ans, l'américain numéro 1 mondial de la rencontre sur Internet avait jeté son dévolu sur Mythique avec une offre valorisant ce dernier à 345 millions d'euros. Une belle dot pour l'époque. Aujourd'hui, Match est valorisé près de 27 milliards de dollars en bourse et règne sur quelques-unes des plus belles marques de la rencontre dans le monde. Bonjour Anaïs Moutot.
Bonjour Pierrick.
Vous êtes journaliste aux Échos. Alors, que représente le marché de la rencontre en ligne ?
C'est un marché en forte croissance. En fait, la part des couples qui se rencontrent en ligne est de plus en plus importante. Surtout aux États-Unis, on a toute une génération de jeunes qui ne connaît que ça, en fait. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais fait l'expérience d'un autre moyen de rencontre, de draguer dans un bar ou de rencontrer quelqu'un à l'université. En fait, il y a un sociologue de Stanford qui a publié un graphique vraiment intéressant où on voit les courbes d'évolution de moyens de rencontre depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc, on voit que la famille a décliné après la Seconde Guerre mondiale comme premier moyen de rencontre, tout comme l'église. Et en fait, les amis ont pris le relais. Ils sont devenus le premier moyen de rencontre jusqu'à atteindre 35% des rencontres aux États-Unis dans les années 80. Et le deuxième moyen le plus courant, c'était le travail. Et en fait, ces deux moyens-là ont complètement décliné ensuite, tout comme la rencontre à l'université, pour être remplacés en quelque sorte par les rencontres en ligne, qui sont passées en gros de 5% des couples en 2000 à presque 40% en 2020 aux États-Unis, selon cette étude de Stanford. En France, on a des chiffres moins précis. Internet grossit aussi, mais c'est un peu moins dominant qu'aux États-Unis quand même. Donc, les derniers chiffres qu'on a, c'est ceux de l'Institut national des études démographiques, l'INED. Ça remonte quand même à 2016, donc on peut imaginer que depuis, ça a bien augmenté. Mais ça montre que parmi les personnes qui avaient rencontré leur partenaire entre 2005 et 2013, moins de 9% l'avaient connu via ce type de service, ce qui plaçait ces sites de rencontres juste en cinquième position, quand même, derrière le travail qui restait le premier moyen de rencontre, les soirées entre amis, les lieux publics, etc. Donc en France, c'est quand même un peu moins dominant qu'aux États-Unis.
Alors c'est un secteur très concurrentiel, mais il y a un groupe qui émerge vraiment. C'est Match Group.
C'est un secteur, on a une multitude d'acteurs locaux. Donc on a par exemple une assez grande diversité en France. On a Adopte un mec, par exemple, en France, qui est une entreprise française. Mais on a trois groupes principaux dans le monde qui ont constitué un assez gros portefeuille avec plusieurs applications de rencontres. Il y a l'allemand The Parship Meet Group, qui est à l'origine la filiale du géant des médias allemands ProSieben, en fait, qui possède les sites de rencontres assez connus, eHarmony, Elite Partner. Parship aussi et qui a grossi en 2020 en rachetant en partie The Meet Group, qui est une entreprise américaine qui a plusieurs sites de rencontres. Et l'autre groupe aussi qui est assez connu, c'est l'américain Bumble, qui a été fondé par une ancienne vice-présidente de Tinder et qui détient l'européen Badoo et qui s'est renforcé en février en rachetant le français Fruits. Mais le plus gros groupe, sans aucun doute, c'est le texan Match Group, qui représente environ 60% des téléchargements d'applications de rencontres aux États-Unis, avec sa pépite Tinder notamment, qui est numéro 1 quasiment partout dans le monde. C'est une entreprise donc qui a démarré avec le site match.com en 1995, qui a été rachetée en fait en 99 par IAC, qui a un gros conglomérat, c'est Barry Diller qui est derrière, qui a des activités dans la pub, dans les médias, etc. Et qui a construit une sorte d'empire du dating avec aujourd'hui une dizaine d'applications de rencontres et une dizaine de sites internet, même si les sites internet ça marche de moins en moins bien, donc c'est vraiment les applications aujourd'hui qui comptent, les applications mobiles. Et donc dans ce groupe, on a Mythic qu'ils ont racheté en 2011, surtout Tinder aussi, qui a été créé dans leur incubateur en 2012. On a Inge aussi, qui est moins connu en France parce que pas encore en langue française, mais qui a vraiment explosé dans les pays anglo-saxons. Donc voilà, c'est vraiment le groupe majeur des applications de rencontres dans le monde.
Avec une pépite, hein, vous en parliez, l'application Tinder, créée en 2012, qui a vraiment révolutionné un marché de la rencontre qui était jusque-là un peu plan-plan, si je puis dire.
Oui, ça a tout changé en fait. Jusqu'ici, on avait surtout des applications qui avaient ce qu'on appelle un hard paywall, c'est-à-dire qu'il fallait forcément être abonné pour voir la liste des inscrits et envoyer un message. C'était le modèle de Match, c'était le modèle de Mythic, et c'était des applications qui reposaient sur des questionnaires assez longs, avec cette idée de matcher les gens en fonction de critères psychosociaux vraiment précis. Et là-dessus, on a Tinder qui arrive, et la première révolution, c'est que c'est gratuit, ce qui élargit énormément la base d'utilisateurs. Et deuxièmement, le fonctionnement est super simple. En gros, on met 4-5 photos, on met une petite description en 2 lignes, pas plus, et on a accès au profil de gens autour de nous, en fait. C'est basé sur la géolocalisation. Et puis là, si la personne vous plaît, vous balayez l'écran vers la droite pour la sélectionner. Si elle vous plaît pas, vers la gauche pour la rejeter. Donc, c'est ce qu'on appelle le swipe. Et puis, si la personne que vous avez likée vous like aussi, vous matchez. Donc, c'est ce qu'on appelle le double opt-in. C'est la nécessité de s'être mutuellement aimé pour démarrer une conversation, qui a un gros avantage, c'est de résoudre un peu cette peur du rejet, en fait. Parce qu'on se parle seulement une fois qu'on est sûr que l'autre personne a bien aimé notre profil. Et donc, en fait, ce design assez ingénieux, mais assez simple, qui demande pas de se poser 60 000 questions, fait que l'appli a décollé complètement sur les campus américains et qu'avec ça, petit à petit, l'image des applications de rencontre, qui était encore un peu vue comme une solution pour peut-être les divorcés, les personnes plus âgées, a évolué pour devenir quelque chose de vraiment cool à laquelle tous les jeunes se sont mis.
Tinder génère plus de la moitié du chiffre d'affaires de Match. Son nombre d'abonnés a triplé en 5 ans et dépasse les 10 millions avec une idée et un slogan « Je suis célibataire et je suis pas désolé ».
Je ne cherche pas de moitié, je suis plus qu'une moitié.
Alors il y a ce rachat de Tinder qui est important effectivement, mais il y a un autre achat qui est marquant pour le groupe, c'est celui de Mythic en 2011.
Oui, ça a été le début de l'expansion internationale de Match Group, le rachat de Mythic. Donc Mythic, en fait, c'est ce groupe créé par le français Marc Simoncini en 2001. Et c'est un groupe qui est vraiment bien implanté en Europe, en fait, qui a grossi à coup de rachat en Allemagne, au Royaume-Uni, etc., dans le courant de la décennie 2000. Donc, ça a été un achat vraiment très important pour que Match Group commence à s'internationaliser et à sortir juste des États-Unis.
Vous vous êtes rendu au siège social de Match à Dallas, connu alors surtout, hein, vous le savez, pour son univers impitoyable, moins pour son univers glamour.
Oui, Dallas, c'est pas vraiment glamour comme dans la série. Hein. C'est vraiment la ville américaine avec le downtown plein de gratte-ciel et malheureusement beaucoup de pauvreté, énormément de SDF. Et autour, on a cette banlieue avec des malls à l'infini, des grandes maisons avec pelouse bien entretenue. Et donc, Match Group, ils sont installés au nord de Dallas, hein, presque justement à la périphérie avec cette banlieue, dans un gratte-ciel aux vitres teintées. Donc, ils ont trois étages dans ce gratte-ciel. Je sais plus, je crois que c'est entre le 13e et le 16e étage ou quelque chose comme ça. Ils ont mis une petite ambiance californienne dans les locaux. Donc, il y a une table de ping-pong, une cuisine avec pleine de snacks. Donc, il y a un petit côté start-up comme ça. Puis, c'est un immense open space avec des Mac partout. Mais bon, il n'y avait pas vraiment d'ambiance quand j'y étais parce que malheureusement, avec le Covid, la majorité des employés est encore en télétravail là-bas.
Il y a des salles de conférence au nom de chansons d'amour, c'est ça ? C'est ce que vous aviez écrit dans votre article ?
Oui, tout à fait. Il y a plusieurs chansons d'amour. Alors, je sais qu'il y en avait une en italienne, Ti Amo. J'ai plus tous les noms en tête, mais ils ont fait ça avec plusieurs noms de chansons d'amour. Donc voilà, c'était assez marrant. I'm hot just like an army.
À sa tête, la tête de match, il y a une femme. Alors, Char Doubet, qui est-elle ?
Alors, Char Doubet, c'est la directrice générale de Match Group depuis 2 ans. Elle est arrivée à la tête de la société vraiment au début de la pandémie. Mais elle est dans le groupe depuis 2006, donc ça fait vraiment longtemps, ça fait plus de 15 ans. Elle a travaillé dans à peu près toutes les filiales du groupe. Et elle a un parcours qui est intéressant et assez impressionnant, puisque c'est une femme de 52 ans, qui est originaire d'Inde, du nord-est du pays plus précisément, et qui a grandi donc sur le campus de cette ville parce que son père était professeur en école d'ingénieur, mais sa mère était femme au foyer et à l'époque les filles faisaient pas vraiment d'études et son père l'a poussée à faire des études malgré le fait que c'était une fille. Donc en fait elle est rentrée à l'Indian Institute of Technology, qui est une université vraiment très très compétitive en Inde, avec un très haut niveau qui est un peu si on compare l'équivalent du MIT aux États-Unis, et c'était la seule fille dans une promotion d'une centaine de garçons. Et puis après sa licence là-bas, elle a travaillé un peu pour un producteur d'acier dans sa ville. Et puis elle a décidé de postuler un master aux États-Unis. Et puis elle a pris l'université qui lui offrait la plus grosse bourse. Donc c'était dans l'Ohio. Donc même si ça voulait dire un gros choc thermique, elle a décidé d'aller là-bas. C'était aussi la première fois qu'elle prenait l'avion dans sa vie. Hein. Donc elle a déménagé aux États-Unis. Elle a fait son master. Et puis une fois diplômée, elle est devenue la première femme ingénieure et la première étrangère à être recrutée par un fabricant aérospatial en Pennsylvanie. Et donc là, elle me racontait que c'était une expérience qui l'avait vraiment formée, qui n'était pas facile en fait, parce qu'elle avait eu du mal à se faire accepter. C'était des gens qui étaient dans cette entreprise, souvent assez âgés, que des hommes, et qui étaient là depuis bien une dizaine d'années. Et donc, elle a raccourci son prénom en fait, qui est originellement Charmista. Elle l'a raccourci en Char, et puis elle a regardé énormément de sitcoms pour essayer d'améliorer son accent et d'avoir un peu des références pop culture pour améliorer les discussions avec ses collègues qui n'étaient pas forcément faciles.
Howard, hi Sheldon.
Hello. Why are you holding hands? I forbid you to hold hands.
Rajesh, you know Leonard and I spent the night together.
Yeah, but you were just sleeping because I forbidden you to have sex.
Reste à savoir si elle a regardé Big Bang Theory avec Raj et son accent prononcé pour mieux parler anglais. Elle a travaillé chez Texas Instruments, chez un fabricant de logiciels aussi, assez loin du monde du clic amoureux. Comment s'est-elle retrouvée chez Match ?
Ah oui, c'est assez loin et en même temps, ce que propose Match, c'est justement d'appliquer les recettes du monde de la tech au monde amoureux. Donc, en fait, elle était chez ce fabricant de logiciels de supply chain où elle travaillait avec une certaine Mandy Ginsberg. Et en 2006, Mandy Ginsberg, elle part pour gérer le site de Chemistry, qui est la deuxième marque que Match a lancée dans l'idée de contrer eHarmony, qui allait plus sur les relations sérieuses, alors que Match, à l'époque, c'est plus pour un coup d'un soir. Et donc, Mandy Ginsberg, elle appelle Char pour lui demander si elle connaît pas quelqu'un qui pourrait l'aider sur le versant technologie. Elle pense pas du tout que ça peut intéresser Char. Et en fait, 2 jours plus tard, Char la rappelle et lui dit qu'elle est intéressée. Quand on lui demande pourquoi, elle dit que ça a été un peu une intuition, comme ça. Elle connaissait absolument rien au site de rencontre, puisque elle a rencontré son mari à son premier travail en Inde. En fait, ils étaient juste amis à l'époque, mais elle l'a revu aux États-Unis après. Et là, ils se sont mis ensemble parce que lui, il avait aussi déménagé là-bas. Et donc, elle avait jamais mis un pied sur un site de rencontre, mais elle était attirée par la mission. Elle m'a dit cette idée de réfléchir à résoudre ce qu'elle appelle le problème humain le plus compliqué compliqué qu'il soit, donc qui nous attire, comment on tombe amoureux, etc. Et essayer de voir si on pouvait appliquer la technologie pour répondre à ça.
Il y a une phrase, moi, qui m'a marqué dans votre reportage pour les Echo Weekends, c'est celle-ci. Le groupe reste plus discret que les autres géants de la tech, principalement dirigés par des hommes. C'est lié à sa personnalité ?
Oui, c'est pas quelqu'un qui aime prendre la lumière. Hein. On l'a vu pendant la séance photo avec la photographe. Elle était assez mal à l'aise, clairement. C'est pas quelque chose qu'elle apprécie. Elle accorde pas beaucoup d'interviews aussi. Avant celle avec les Échos, elle avait eu des interviews avec Wired, le New York Times et Bloomberg, mais c'est tout. Sur 2 ans, c'est pas énorme quand même pour quelqu'un qui dirige une grosse entreprise comme la sienne. Et puis, elle aime pas vraiment parler de sa vie privée. Donc, on a parlé de son mari, etc. Mais ça s'arrête assez vite, quoi. Elle va pas non plus rentrer vraiment dans les détails. Et elle s'affiche pas sur les réseaux sociaux. Elle a pas de compte Instagram ou Twitter, etc. Et puis, elle le dit elle-même, hein, que c'est quelqu'un d'introverti à l'origine et qu'elle a beaucoup évolué, en fait, au contact de Mandy Ginsberg, donc qui était la PDG avant elle et qui en a fait sa présidente à l'époque. Donc, enfin, elle était directrice générale, avait fait de char sa présidente. Et donc, elles ont formé ce duo chez Match. Et Mandy Ginsberg, elle est très extravertie. Donc, à son contact, elle s'est un peu plus ouverte. Et puis, elle a commencé à assumer un rôle un peu plus public, puisque cet automne, elle est sortie de sa réserve pour dénoncer la nouvelle loi adoptée au Texas qui interdit l'avortement au-delà de 6 semaines. Elle a aussi créer un fonds pour couvrir les frais que ses salariés femmes ou leurs proches pourraient avoir à payer en cas d'avortement dans un autre État aux États-Unis. Et elle s'est exprimée pas mal sur ce sujet dans la presse. Mais le fait qu'elle soit assez discrète, c'est pas que sa personnalité, c'est aussi parce que Match Group veut pas forcément que la marque Match Group soit connue, en fait. Chaque filiale, par contre, fait plus de communication, notamment Tinder. Et c'est aussi parce que le groupe, il veut pas forcément que les internautes, ils se rendent compte que ces différentes marques qu'ils utilisent, c'est la même entreprise derrière, parce que ça pourrait quand même poser des questions pour les internautes et aussi pour les régulateurs de se dire est-ce qu'il n'y a pas un petit problème de concentration à ce niveau-là.
Ce qui ressort aussi de votre article, c'est qu'être dirigé par une femme, c'est plutôt un avantage sur ce marché de la rencontre très concurrentiel.
Oui, disons qu'aujourd'hui, les femmes ont des expériences parfois très négatives sur les applications de rencontre. Il y a des problèmes de harcèlement, d'insultes, etc. Donc il y a un peu une quête, une bataille entre groupes d'applications de rencontre aujourd'hui pour montrer que son application est féministe en quelque sorte, comprend les problèmes et les critiques des femmes et essaye de faire que ça se passe mieux pour elles. Et c'est beaucoup ce que met en avant Bumble, qui a vraiment été créé dans cette idée-là, avec un fonctionnement où seules les femmes peuvent envoyer le premier message, donc dans l'idée de réduire le harcèlement, mais aussi de casser les code classique de la drague, puisque ce qu'on constate quand même sur les applications de rencontre, c'est que ce sont les hommes qui continuent de faire le premier pas, donc on reste dans un schéma assez classique. Donc c'est important, face à Bumble, pour Match, de mettre en avant qu'eux aussi sont dirigés par une femme qui a conscience des enjeux et des problèmes pour le sexe féminin sur sa plateforme.
Et Bumble, c'est vraiment le Tinder killer, l'anti-Tinder, comme on dit dans la Silicon Valley ?
C'est clairement devenu le plus gros concurrent de Tinder, et puis elle a été lancée en 2014, elle a énormément grossi depuis. Elle s'est introduite en bourse aussi en février 2021. Mais ça remplace pas vraiment Tinder. En fait, quand on regarde comment les gens utilisent les applications de rencontre, en fait, en général, ils en téléchargent 4-5 et puis ils les utilisent en même temps. Ils vont de l'une à l'autre. Ils font un peu leur marché comme ça. Après, c'est clairement une menace pour Match Group, hein, qui a essayé de racheter Bumble en 2017. Et Bumble a refusé. Et depuis, les relations entre les deux entreprises sont très tendues. Il y a eu des poursuites, contre-poursuites. Bumble a accusé Match Group de lui avoir volé des secrets commerciaux. Match a contre-attaqué en disant que Bumble avait enfreint son brevet sur le swipe. Bon, au final, ça a été réglé à l'amiable. On n'en sait pas tellement plus. On n'a pas eu le montant en 2020. Mais bon, on voit clairement à travers cette bataille juridique que Bumble représente quand même une grosse menace pour Match.
Quel est le bilan de Char Dubey à la tête de Match Group ?
Il n'est pas évident à évaluer parce qu'elle a pris les rênes de l'entreprise juste au début de la pandémie. Donc, ça a été un peu des résultats en dents de scie parce que d'un côté, pendant la pandémie, il n'y a pas eu tellement d'autres moyens de rencontrer quelqu'un que d'utiliser une application de rencontre. Et en même temps, avec les confinements, c'était parfois tout simplement impossible de se rencontrer physiquement. Donc en fait, beaucoup de gens n'ont même pas essayé. Et le fait qu'il y ait encore des confinements, beaucoup en Asie, ça fait que cette région sur laquelle ils ont beaucoup misé, qui représente environ 20% de leur chiffre d'affaires aujourd'hui, n'est pas très en forme. Donc voilà, les résultats à ce niveau-là, ils sont pas incroyables. Mais en dehors de cette question du Covid, Covid, on peut dire qu'elle a engagé l'entreprise encore plus dans son internationalisation, donc en Asie, avec notamment l'acquisition l'année dernière d'une entreprise coréenne qui s'appelle Hyperconnect, qui a deux applis qu'on ne connaît pas du tout en France, mais qui sont très populaires en Asie et aussi dans certains pays en développement comme la Turquie, qui s'appelle Azar et Hakuna, qui sont en fait des applications plus de vidéo live streaming, en fait, où on n'est plus vraiment dans uniquement la rencontre amoureuse, c'est plus large en fait. Ça peut être d'essayer de se faire des amis comme ça, à distance, un peu aussi entre le streaming, presque un peu comme sur Twitch en fait. Donc c'est quelque chose aussi que fait Match, c'est de se diversifier un peu en dehors des applications de rencontre pure. Et aussi l'avantage de cette acquisition, c'est que Hyperconnect, ils ont une espèce de brique technologique qui permet facilement de faire du live stream en vidéo. Et c'est un peu le deuxième grand succès de Char depuis sa prise de fonction, c'est que la vidéo s'est complètement banalisée dans les applications de rencontres. Et elle, elle voit ça comme un moyen de présélection plus efficace pour juger l'alchimie, en fait. Plutôt que de passer juste d'un message à une première rencontre, bah, avec une vidéo, on est capable de juger mieux si la personne nous plaît. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'elle met en avant. Et puis, en fait, Hyperconnect a aussi des expériences en métaverse. Donc, ils ont déployé à Séoul, la capitale de la Corée du Sud, une expérience qui s'appelle Single Town. Donc, c'est une espèce de ville virtuelle où votre moi numérique peut aller dans des clubs ou à la plage et tomber un peu sur les gens de façon imprévue. Donc, en fait, l'idée, c'est quand même aussi de rester à la pointe de la technologie et Char, elle est assez attentive à ça. Et puis, elle a démarré aussi une transformation de Tinder pour être moins centrée sur les photos, avec davantage un peu d'expérience interactive où les gens se connectent et font des choses ensemble. Donc, par exemple, il y a une mini-série où c'est un peu un scénario d'horreur dans une maison où il y a plusieurs personnes en vacances et il faut choisir le scénario et puis on est connecté avec des utilisateurs qui ont décidé un déroulé similaire.
Le prochain gros combat de la patronne de Match, c'est comme un symbole, c'est celui de la pomme, vous savez, le fruit défendu dans la Bible, c'est pour le clin d'œil. Mais Match aimerait bien se libérer un peu plus du groupe Apple.
Oui, Match Group fait partie des applications sur l'App Store qui payent une commission de 30% à Apple sur ses revenus, car elle doit utiliser son système de paiement. Et comme la plupart des fabricants d'applications, elle trouve ça extrêmement injuste, ça représente presque 20% de son chiffre d'affaires quand même. Et notamment, Char Dubey, elle met beaucoup en avant la différence de traitement avec des applications comme Uber, qui ne sont pas soumises à cette commission parce qu'elles sont jugées comme un service non numérique qui vise à mettre en relation une personne avec un chauffeur dans la vraie vie. Mais elle dit, nous aussi, on met en contact des personnes dans la vraie vie, donc cette règle n'a pas de sens. Alors, elle n'est pas allée jusqu'au procès comme le fabricant du jeu vidéo Fortnite, Epic Games, qui a poursuivi Apple, mais elle est très active, en fait, en coulisses auprès des régulateurs, notamment de la Commission européenne, pour faire changer la législation. Elle a notamment porté plainte aux Pays-Bas auprès de l'autorité antitrust, en fait, qui lui a donné raison en décembre. Et donc, en fait, Apple, depuis, a reçu 9 amendes. Elle en reçoit une par semaine. Donc, on arrive à 45 millions d'euros. Et là, ça s'est arrêté parce qu'Apple a soumis des propositions à l'autorité qu'elle est en train d'évaluer. Mais donc, voilà, elle a quand même un rôle assez actif là-dedans. Mais ce qui est un peu paradoxal, c'est qu'en même temps, Match Group, on peut aussi se questionner quand même sur son comportement antitrust, en fait. Et le groupe lui-même pourrait être affecté par un renforcement des lois antitrust, puisque l'entreprise a racheté certains de ses plus gros concurrents. Et les consommateurs se rendent pas compte que Tinder, Hinge, Mythic, c'est la même entreprise. Donc il y a une concentration du marché qui est pas très visible parce qu'il y a une illusion de concurrence, en fait. Et l'autre problème, c'est qu'on voit une certaine agressivité de Match vis-à-vis de ses concurrents. On voit souvent un schéma se répéter où Match essaie de racheter la start-up qui monte, n'y arrive pas, et après lui intente un procès pour avoir violé sa propriété intellectuelle. C'est ce qui s'est passé avec Bumble, c'est aussi ce qui s'est passé avec Muzmatch, qui est une application pour les musulmans qui est très populaire au Royaume-Uni. Donc Match, ils insistent sur le fait que leur discussion d'acquisition et le contentieux ne sont pas du tout liés, mais ça pose quand même des questions. On se dit que les autorités de la concurrence vont peut-être regarder cette question à un moment.
Merci Anaïs Moutot, journaliste aux Échos. Son reportage à Dallas chez Match Group est à retrouver dans les Échos Week-end. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. La story est disponible sur toutes les applications de téléchargement et de streaming. Et si ça match entre vous et nous, n'hésitez pas à vous abonner.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.